Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes, je vous ai présenté l'équipe de la bonne heure. Nous sommes en direct et en public. Merci, cher public, d'être fidèle à ce rendez-vous. Et je vous présente l'invité. Ce cinéaste est un drôle d'oiseau qui n'appartient pas au troupeau des réalisateurs français qui enchaînent eux les films d'une année sur l'autre. S'il prend son temps, c'est aussi parce qu'il tourne avec les acteurs les plus difficiles à canaliser, les animaux. Après les tigres, les ours, le voici qui entre dans la gueule du loup en cumulant les difficultés, puisque d'abord, il tourne en Chine, dans un pays qu'il a censuré, dans une nature relativement hostile, où l'on se fait aussi facilement dévorer par les moustiques que par les grands fauves. Après ses films « 7 ans au Tibet » et « L'amant », qui ne le prédisposaient pas à être approché par les autorités chinoises, il est pourtant embarqué dans cette folle aventure ô combien exaltante de l'adaptation au cinéma du livre le plus vendu en Chine, avec le petit livre rouge de Mao, « Le totem du loup » de Jiang Rong. Dans ce film magique, en pleine steppe de Mongolie intérieure, l'homme se révèle un loup pour le loup, auquel on s'attache d'autant plus que le dernier loup est un hymne vibrant pour une nature fragile, toujours plus menacée par la folie productiviste des hommes. C'est une fable bouleversante, aussi émouvante que celle de La Fontaine. Ça pourrait s'appeler Le Loup et l'Anneau. Avec nous, oui, c'est pas de moi, avec nous ce matin sur RTL, Jean-Jacques Anneau. Formidable film, merci d'être avec nous Jean-Jacques Anneau. Est-ce que vous êtes superstitieux un peu comme Claude Lelouch?
Ah, pas du tout, non.
Non,
non, ça c'est, j'ai un manque total là-dessus.
Parce que le film qui sort, parce que lui a une fascination pour le chiffre 13, et c'est votre 13e film.
Ah oui, effectivement.
Oui, voilà. Bah maintenant, oui, il est un peu angoissé maintenant.
Oui. De toute façon, non, ça va super bien marcher. D'abord parce qu'on vous l'a dit, en Chine, il y a plus d'un million d'entrées par jour.
Oui.
Ce qui est comme...
C'est un pays très peuplé.
Oui.
Mais même.
Dis-moi, enfin, ça va, ce film va émouvoir, il va être vu dans le monde entier. Et c'est vrai que vous, en moyenne, vous faites un film tous les 4 ans. Il faut dire que La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, L'Ours, L'Amant, de films, d'ailleurs, je le dis, ont été réédités par Pathé en haute définition. 7 ans au Tibet, Stalingrad et aujourd'hui Le Dernier Loup sont des films d'une telle ambition que ça vous demande d'abord des mois de préparation, des tournages très difficiles. Là, pour le coup, vous avez... Les loups ont été créés spécialement.
Enfin, créés, oui.
Ce sont des automates.
J'ai effectivement fait un casting de papa et de maman.
Voilà. Ouais. Ils ont fait des enfants.
Donc, 3 ans avant le tournage, quoi. Combien de temps?
4 ans.
4 ans.
Avant le tournage. En fait, j'ai été approché en 2007. On a commencé l'élevage des loups en 2009. On a tourné en 2012 et 2013. J'ai fait toute la post-production en 2014. Et coucou, me voilà.
Ça, c'est incroyable.
Ça vit combien de temps, quoi.
Un loup, en captivité, ça peut vivre 30 ans.
Oui.
Ah oui.
Oui, dans les steppes mongoles, c'est plus difficile.
Oui.
Mais alors, donc vous avez sélectionné les papas et les mamans. Ils ont fait des petits louveteaux.
Voilà, il a fallu faire de nombreux kilomètres pour aller voir les différents endroits où demeuraient encore des loups mongols. Parce qu'il y a des sous-espèces.
Vous ne vouliez pas des loups chinois, vous vouliez des mongols.
Oui, parce que le loup de Mongolie a en plus de ça deux espèces, l'espèce de forêt et l'espèce de steppe.
Oui.
Et l'espèce de steppe est beaucoup plus intéressante parce que beaucoup plus sauvage et beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente parce que dans la steppe, il n'y a rien pour se cacher. Donc ce sont des stratèges extraordinaires.
Ah oui, ils sont très malins.
Il y a beaucoup de loups encore en Mongolie.
Alors, la Mongolie, il y a deux pays.
Qui Mongolie
la
intérieure.
Oui, la Mongolie intérieure,
c'est là que vous avez tourné.
Très très peu. De l'autre côté de la frontière, il y en a beaucoup plus, mais ils sont en voie de disparition parce que évidemment ils attaquent les troupeaux et comme tous les éleveurs du monde entier, évidemment les éleveurs n'aiment pas les loups. Et ils ont beau être une espèce protégée.
Ce qu'on voit bien dans votre film, c'est qu'on a détruit l'équilibre, certes un équilibre fragile, entre les loups, les éleveurs. Les gazelles, les moutons, etc. Et tout ça parce que des gens ont voulu, et c'est ce que montre le film, rationaliser tout ça, augmenter la production.
Oui, ça a été le cas, pas seulement dans cette région éloignée. C'est pas un phénomène typiquement mongol. C'est le monde entier a vu une extension de la présence humaine et du coup une disparition des espèces. Là, on parle beaucoup.
Là, ça se fait de plus manière plus autoritaire, peut-être.
Ah oui, là-bas.
Vous savez, moi, j'étais à la même époque, j'avais été envoyé en Afrique. numérique pour non pas faire de l'alphabétisation comme le héros de mon film, mais pour enseigner le cinéma. Et mes copains agronomes coupaient la forêt allègrement pour transformer cette forêt en plantation d'ananas qui après n'ont pu trouver à être achetées. Voilà. Donc si vous voulez, on a fait la même dégradation, peut-être pas avec les mêmes méthodes, mais enfin c'était le résultat était le même.
J'avais une question parce qu'on voit beaucoup de photos de vous sur le tournage du film avec un loup qui vous lèche de la tête aux pieds. Et ça m'a beaucoup inquiété parce que je me suis dit, en fait, les loups, ils sont inoffensifs.
Oui, moi aussi, ça m'a inquiété parce que.
Montrez, vous êtes toujours deux oreilles.
Oui, c'est bon. Et il est. Oui, ce loup a décidé, la première fois où on s'est rencontrés, de venir à moi. Il était le chef de meute.
C'est le chef de meute. Hein,
c'est le chef de meute. C'est le chef de meute, c'est le roi. Il est venu un peu comme de Funès dans la folie des grandeurs, extrêmement courtois, disons, à plat ventre, la queue entre les pattes, et avec le regard humble. Et puis il m'a reniflé les chaussures, il m'a reniflé le pantalon.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
quand on laisse faire. Il y a le dresseur à côté qui me dit bah écoute, il est en train de te chouetter.
Il vous a choisi comme épouse. Voilà.
Et ensuite, il m'a léché tout discrètement le bout de l'index. Et le lendemain, c'était l'index et le majeur. Après, la fois d'après, ça a été la main.
Mais il renifle ça comme son déjeuner ou
Non. Ce qui était très touchant, c'est que après cette frottée,
il va transmettre ça aux autres.
Oui, il s'est frotté. À ces différents sujets pour leur faire pour propager ma senteur.
C'est
dire grosso modo voilà, ça c'est mon copain.
C'est mon copain.
Voilà à quoi il ressemble. Et ça a facilité le rapport évidemment avec l'ensemble de la meute. Ce qui était compliqué après, c'est que pendant le tournage, il ne voulait pas démarrer la journée de tournage sans la cérémonie, sans le rituel amoureux.
Ah oui. Alors, vous aviez un rituel amoureux avec le loup.
Oui. Alors, et les fois où j'essayais de me cacher en allant directement dans la yourte où nous avions nos écrans de contrôle, je le voyais, les caméras le suivaient, il était en train de renifler partout et il n'y avait rien à faire. Il attendait que je cherche.
Il est en love total. Il est là d'ailleurs pour vous ce matin. Il voulait vous revoir.
C'est une histoire d'amour incroyable.
Oui. Et alors, après, ce qui était difficile, c'est que d'abord, il était très passionné. Que son épouse n'était pas toujours d'accord. Donc elle me tirait le pantalon pendant que lui me débarbouillait.
Et la vôtre d'épouse
La mienne est ma script depuis toujours.
Elle était moins jalouse.
Oui, parce qu'elle pensait que cet animal s'appelle Claudie, mais Claudie. Comme le nuage, Cloud. Oui. Et elle pensait que c'était Claudie, le nom féminin. Oui, jusqu'au jour où elle s'est aperçue que c'était un garçon. Mais elle était une femme très tolérante.
Très tolérante, voilà. Une belle histoire d'amour, en tout cas, entre Jean-Jacques Hano et Claudie. Alors, je vous propose de jouer, parce que cette semaine, eh bien, RTL vous offre un séjour incroyable. Non, vraiment dans un endroit magique. On vous offre la possibilité de partir au Chambard, à Kaisersberg, au cœur du vignoble alsacien. C'est un hôtel 4 étoiles avec spa, institut, mais également un restaurant gastronomique doublement étoilé au guide Michelin. Il y a aussi une Weinstube, vous savez, c'est
cette Weinstube.
Weinstube.
Ah bah oui, mais il y a...
Dites-moi en français, ça ira bien.
Un vin stube. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a tout. Vous avez 32 chambres, des suites. Il y a un spa avec piscine, sauna, même jacuzzi. Un institut dont les soins vous feront voyager en toute sérénité. Le 64, c'est le restaurant dont le chef Olivier Nasty est meilleur ouvrier de France. Voilà. Enfin, le Chambard, c'est une belle histoire de famille. C'est la famille Nasty. Alors pour cela, le lundi, il faut répondre à une énigme de logique.
C'est là que ça se gâte.
Ça se gâte. Quel crime est puni s'il ne réussit pas et impuni s'il réussit? Alors, appelez tout de suite au 3210 ou 74-900 avec par SMS le code bonheur en majuscule.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Jean-Jacques Hano qui nous raconte au fond les coulisses du tournage du dernier loup, son film qui sera la semaine prochaine, un formidable film. Moi je l'ai vu en 3D, mais il existe, il y a plusieurs méthodes, plusieurs formats si je puis dire.
Oui, il y a des gens qui n'aiment pas le porter des lunettes au cinéma et qui préfèrent le 2D. La version 2D est tout à fait, elle est très brillante au plan coloré.
Le 2D, oui, c'est formidable. Et, oui, mais alors avec la 3D, moi j'ai vu par exemple les moustiques, quand il y a des moustiques, je prends les moustiques sur la figure.
Ah, vous aviez
l'impression.
J'étais en train de dire. Ah,
évidemment, le loup, il est vraiment sur vous. C'est-à-dire, à un moment, il jaillit, bondit comme ça. Et j'ai l'impression qu'il allait me dévorer. C'est très impressionnant.
C'est pour ça que j'ai choisi la 3D sur ce film. J'avais fait, moi, le tout premier film en 3D de l'histoire récente, qui s'appelait Ailes du Courage, qui est toujours visible au Futuroscope, et qui était l'histoire de Guillaumet, le pilote de l'aéropostale. C'est un format, si vous voulez, qui est piégeant si vous l'utilisez comme un gadget. Alors, ça, c'est pas bien du tout. Là, j'ai fait une 3D très calme pour que les gens aient le sentiment d'être dans la proximité, dans l'espace des loups. C'est vraiment pour ça. En plus, ça, pour le petit loup, c'est adorable. On a l'impression de pouvoir le toucher. Et j'ai banni tous ces effets dits spectaculaires de choses qui vous arrivent dans la film.
Oui, d'ailleurs, Stéphane, la dame dont vous avez caressé les cheveux, pensant que c'était le petit loup, c'était elle a pas bien apprécié.
C'était pas du 3D, elle était vraiment là.
Mais vous l'avez décoiffé.
C'était du lynx, c'était pas du loup. Elle avait un manteau. Alors, le point de départ, il faut rappeler quand même de l'histoire, Jean-Jacques, c'est l'envoi par le gouvernement de Pékin d'un jeune étudiant, Chen Zhen, en Mongolie intérieure, et il est chargé, au fond, par les autorités d'éduquer ces nomades. Il y a la part du pouvoir maoïste, la volonté de placer les intellectuels dans un monde dont ils ignorent tout à Pékin.
Oui, oui, bah si vous voulez, ça a été une génération entière qui a été envoyée. Là, puisque c'est une histoire vraie, ce personnage avait décidé lui-même de porter sa candidature. D'abord parce qu'il croyait à ce message, il trouvait que c'était bien d'aller à la campagne et d'apprendre le mandarin à ses peuples éloignés. Et il a adoré son séjour, au même titre que moi j'avais adoré mon séjour quand j'ai été expédié en Afrique pour y enseigner le cinéma. C'était la même année. Je suis tombé en amour. Lui aussi est tombé en amour.
Oui, mais il arrive avec une caisse. On est en pleine Mongolie intérieure. Il y a 17 heures de voyage et il arrive avec une caisse de livres.
Il a fait à peu près la même chose que moi. Moi, j'avais amené une caisse de disques. Mais oui, mais on était les mêmes jeunes gens, universitaires.
Vous êtes reconnu alors un peu ?
Ah, mais énormément. C'était moi, bien sûr. Si vous voulez, l'Afrique m'a ouvert le cœur. J'ai compris qui j'étais. Là-bas, tant que j'ai fait les écoles de cinéma, j'étais avec des gens de mon milieu, nous parlions d'art et de littérature. Arrivé en Afrique, je me suis retrouvé avec des gens qui parlaient pas du tout ma langue. Je me souviens la première fois que je suis allé, le premier week-end, on m'a emmené au milieu d'un village. Un vieux monsieur m'a invité sous sa paillote et il ne parlait pas un mot de ma langue. Il m'a simplement pris la main en me souriant pendant 20 minutes. Et j'ai compris que je comprenais mieux ce monsieur que mes coreligionnaires.
Évidemment, vous êtes très populaire là-bas.
Non, mais si vous voulez, c'est très touchant. Vous savez, quand
c'est pas un loup, c'est pas un loup.
Oui, vous appelez chez les oreilles.
Non.
Peut-être dans une autre vie, vous étiez un animal, je ne sais pas, peut-être.
Mais forcément, nous tous.
Oui, mais lequel? C'est tout, c'est de savoir.
On était des petits rats, on a grandi peu à peu. Non, mais...
Alors, cela dit, vous avez fait un travail qui est magique, alors il ne faut pas nous révéler, j'imagine, tous les secrets, mais par exemple, il y a une scène, des chevaux qui vont foncer dans un lac gelé risque de tous les emporter, les loups, les courses... Et là, on se dit, mais comment on peut filmer une telle scène ? Il paraît qu'il y avait, il y a un truc quand même.
Bah non, le truc, c'est 6 mois de préparation, 6 semaines de tournage pour 6 minutes d'écran.
Combien de prises ? Au maximum.
Écoutez, pas beaucoup parce qu'on peut pas épuiser les animaux. Puis la magie, elle se passe toujours à la première prise, donc il faut être
prêt,
bon
quoi.
dès le départ. Mais il nous arrivait de passer une nuit entière pour un plan. La complexité, c'était de faire courir ensemble des chevaux et des loups sans qu'il y ait de danger pour aucune des deux espèces. Or, évidemment,
la neige.
Dans le blizzard avec
un blizzard. Soit de la facilité à chaque fois.
On voit plein de bêtes mourir tout le temps, se faire dévorer.
Oui, mais enfin, celle-là, c'est des bêtes artificielles.
Ah bon?
Oui.
Il n'y a eu aucune perte.
Non.
Regardez les déçus.
Non, c'est vrai. On ne peut pas se permettre.
Les impalas et les autres. Non, enfin, les gazelles, là. Elles sont bien mortes, les gazelles.
Mais c'est des fausses, celles-là.
C'est des fausses gazelles qui ont été dévorées.
Stéphane, dans un film, quand un acteur meurt, il ne meurt pas pour de vrai.
Ah bon? Ça, je suis d'accord. Mais là, vous avez un loup. Un loup, il a beau être dressé. Quand il y a de la viande, il y a de la viande.
Oui, mais justement, de la viande, quand vous voyez un loup s'attaquer à une crinière de cheval, c'est certes une vraie crinière, mais sur un faux cheval. Ouais. Cette crinière, elle est parfumée au saucisson, donc elle attire énormément le loup. Et sous la fausse peau du faux cheval, il y a un vrai steak. Vous me suivez? Alors là, du coup, lorsque le loup s'attaque, lorsqu'on lui fait renifler la crinière, il s'attaque à ça avec passion. Oui. Il a qu'une envie, c'est de tout dévorer. J'ai trois machinistes en dessous qui font bouger ce faux cheval, et ça fait un plan d'une seconde et quart, ou de deux secondes.
Ah, mais si c'est
D'une minute et demie, parce qu'il y a forcément de la férocité dans les
yeux. Si des films avec les animaux, c'est quand même la bouffe.
Ils font pareil
avec
Depardieu. C'est le chèque. Mais chez nous, avec une perruque, ce serait pas aussi impressionnant.
J'ai vu que du feu, j'ai cru vraiment qu'il allait le boulotter, le cheval.
On voit rien de tout ça,
évidemment.
Vous écoutez RTL.